C'est la soirée avec nous sur France Inter, il est 19h. Hélène Philly, pour l'info, bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Que disent les étudiants mobilisés pour Gaza sur les campus aux États-Unis et en France? Le président israélien y entend de l'antisémitisme, là où Sciences Po ce matin à Paris a essayé de débattre. Le patron de la SNCF convoqué à Bercy sur cet accord signé la semaine dernière, une entaille à la réforme des retraites. L'actualité, c'est encore l'ONU qui demande le retrait du projet de loi sur l'influence étrangère. Elle en flamme la rue géorgienne. La présidente de Géorgie a répondu à France Inter. Les députés votent la création d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le milieu de la culture. Et puis Lucas Hernandez, sans doute forfait pour l'Euro de football. On parle d'espace juste après ce journal. Vous nous appelez au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc le premier officiel israélien à réagir aux mobilisations pro-palestiniennes qui agitent les campus aux États-Unis mais aussi en France ces derniers jours pour défendre la cause palestinienne contre l'offensive israélienne à Gaza, sourde aux appels à la retenue. Le président israélien Isaac Herzog y retient d'autres slogans qui le heurtent et envoie ce message aux Israéliens expatriés.
À tous nos amis dans les universités et dans les communautés juives aux États-Unis et dans le monde. Nous partageons votre appréhension et vos préoccupations. Nous voyons des institutions académiques éminentes, contaminées par la haine et l'antisémitisme, nourries par l'arrogance, l'ignorance, le manque de morale et la désinformation. Nous voyons que les atrocités du 7 octobre contre Israël sont célébrées et justifiées. Pendant qu'ils appellent à l'intifada et au génocide, nous allons travailler ensemble à libérer nos otages détenus par le Hamas et nous battre pour les libertés publiques et notre droit à vivre fièrement, pacifiquement et en sécurité en tant que juifs, en tant qu'israéliens, où que ce soit.
Le président israélien Isaac Herzog, traduit par Thibault Lefebvre, qui voit donc de l'antisémitisme dans une partie de cette mobilisation dans les campus. Le sujet est devenu très politique aux États-Unis en pleine campagne présidentielle. Les partisans de Donald Trump accusent Joe Biden de souffler sur les braises. Le président répond ce soir que l'antisémitisme n'a pas sa place dans les universités, mais qu'ils ne vivent pas dans un pays qui réduit les gens au silence. Et en France, la ministre de l'Enseignement supérieur réclame au président d'université de maintenir l'ordre alors que plusieurs blocages ont encore eu lieu aujourd'hui à Lille ou Lyon notamment. À Paris, le moment était au débat organisé au sein de Sciences Po entre étudiants, salariés, direction. Bonsoir Maxime Glorieux.
Bonsoir.
Ça se passait à huis clos pour la sérénité des échanges. Était-ce aussi électrique que ces derniers jours?
Eh bien, 2 heures de débat tout de même. Un amphi bondé, près de 350 participants, des enseignants, des étudiants engagés dans plusieurs collectifs, mais d'autres aussi comme Pierre, sans appartenance politique ni syndicale.
Chacun a pu exprimer son point de vue, on va dire de manière intelligible. C'était moins un débat dans le sens où il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu d'échange entre les parties prenantes.
Eden, lui, regrette un dialogue à sens unique avec Jean Basser, l'administrateur de Sciences Po.
Ce qu'on déplore, c'est que Jean Basser a une position un peu de fermeté, là où ce qu'on attendait, c'était une position d'ouverture. L'appel des CRS, il a été mal perçu de la part des étudiants. En faisant ça, il a franchi une ligne rouge qui n'a pas été comprise.
Dans l'ensemble, un débat apaisé, sauf sur la question sensible des partenariats entre Sciences Po et 4 universités israéliennes. Lola est venue de Reims spécialement pour participer au débat.
De réfléchir sur ces partenariats, de mettre en place une commission d'investigation. Sciences Po nous dit qu'ils n'ont rien à se reprocher sur le sujet. S'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont qu'à mettre en place cette commission. Puisque s'ils savent déjà qu'il n'y a pas de problème, pourquoi refuser de vraiment rentrer là-dessus ?
À la sortie, des étudiants ont entamé une grève de la faim. Ils réclament un vote interne sur ces partenariats entre Sciences Po et les universités israéliennes.
Maxime Glorieux, et toujours rien au Proche-Orient sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Le Hamas dit seulement étudier dans un esprit positif la trêve proposée par la voix de son chef. Alors qu'Israël menace toujours d'une offensive sur Rafah, que la reconstruction des seules habitations détruites sur la bande de territoire pourrait prendre plus de 80 ans, selon l'ONU. l'ONU. Une mission d'une ampleur jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale.
À 19h et presque 5, Hélène, tout ce qui reste du vignoble du Chablis est un amas de grêle.
Après l'orage d'hier, particulièrement violent, des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong par endroit, plus de 80% de la vigne est dévastée. Reportage France Bleu Auxerre, Damien Robin.
Au volant de sa camionnette, Yvon Vaucoré, viticulteur à Maligny, fait le tour des vignes, les siennes et celles de ses collègues.
Les gens se sont sauvés la semaine dernière de 4 nuits de gel. 4 jours après, la grêle arrive et elle massacre tout.
Et en ce qui le concerne, la grêle a ravagé notamment sa parcelle de Chablis premier cru, l'homme mort.
Bon, et là, il n'y a plus rien. Visuellement parlant, c'est nul, on voit plus rien de vert.
Et pourtant, Yvon Vaucoré garde un mince espoir.
Il faut attendre que ça se réchauffe, il faut attendre que nos contre-bourgeons ressortent sur les endroits où il n'y a plus rien, voir s'ils nous amènent un petit raisin, deux petits raisins ou rien du tout. Donc aujourd'hui, on ne sait pas.
Du côté de la chapelle Volpelteigne, c'est encore pire si c'est possible. Pour Éric Crochot, c'est sans espoir, il estime avoir tout perdu.
Donc là, ce qu'on voit encore 20 cm de grêle dans le bas de la parcelle, et puis au niveau de la vigne, comme vous pouvez le constater, c'est mort à 100%, il n'y a plus rien, quoi, tout est rétamé. Hein. La récolte, elle est oubliée pour cette année, et puis c'est surtout essayer d'avoir des bois pour l'année prochaine pour pouvoir continuer l'activité de la vigne. Mais il va falloir du temps, et puis que la météo soit plus clémente pour nous.
De nombreux viticulteurs du Chablisien, qui ont été un peu moins durement touchés, vont maintenant attendre quelques jours pour faire un nouveau bilan, savoir ce qui peut être sauvé.
L'observatoire Kéronos a compté près de 20 000 éclairs entre la Bourgogne et la Normandie. Une femme d'une cinquantaine d'années est morte, emportée par une coulée de boue dans l'Aisne. Les passagers de plusieurs avions déroutés de Roissy et Orly en sont sortis avec une belle frayeur. Et à quelques jours près, l'épisode d'hier soir aurait pu servir de test grandeur nature au bassin de stockage d'Austerlitz, inauguré aujourd'hui en vue des Jeux Olympiques. Il peut retenir près de 5000 mètres cubes d'eau en cas de forte pluie pour limiter la pollution de la Seine. La SNCF pensait avoir trouvé son accord pour éteindre toute velléité de mouvement social avant les Jeux. Elle n'avait pas anticipé que la colère viendrait de Bercy, car l'accord signé fin avril avec les syndicats va permettre aux cheminots de partir en retraite avant la date prévue. Et c'est une entaille à la réforme durement arrachée par le gouvernement l'année dernière. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Le ministre Bruno Le Maire attend le patron de la SNCF dans son bureau pour qu'il lui rende des comptes.
Oui, Jean-Pierre Farandou prié de s'expliquer par le ministre de l'économie. Paris paru passablement agacé ce matin chez nos confrères de BFM TV.
Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites et les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti.
Un Bruno Le Maire qui donc pointe un défaut d'information selon lui, mais au-delà, s'il reconnaît à Jean-Pierre Farandou son rôle dans le dialogue social avec les syndicats, il rappelle que la SNCF est détenue à 100% par l'État quand, en la matière, l'accord signé avec les syndicats n'est pas satisfaisant. Accord qui donne l'impression d'un deux poids deux mesures, dit-il, très provoquant pour des millions de Français. Le ministre qui a donc décidé de convoquer Jean-Pierre Farandou à Bercy, pressé quelque part aussi, sans doute, dans un contexte d'élection par la droite sénatoriale, qui veut également l'entendre de manière expresse sur cet accord jugé catastrophique côté LR. En face, côté cheminot, on reproche à Bruno Le Maire une polémique pour pas cher, les syndicats pour qui cet accord est financé par les bénéfices de la SNCF et qui rappelle, avec la réforme ferroviaire, on a voulu faire de cette SNCF une entreprise comme une autre. Quand elle négocie un accord avec ses salariés, que l'accord ne plaît pas, je cite, on ne peut pas faire comme si elle était administrée.
Maxime Debs, les syndicats agricole était reçu à l'Elysée aujourd'hui sans annonce concrète, hormis la promesse d'un discours du président à l'automne prochain. Et c'est sous le regard ému de Judith Godrèche que l'Assemblée nationale s'est emparée de la question des violences sexuelles dans le cinéma aujourd'hui. Les députés ont voté la création d'une commission d'enquête transpartisane, Laurence Perron.
Pas une voix discordante du RN à LFI face aux 160 000 mineurs victimes de violences sexuelles chaque année en France. Francesca Pasquini, députée écologiste, rapporteure de la proposition.
Un enfant toutes les 3 minutes. Toutes ces victimes sont là, parmi nous dans cette salle. Elles font la queue avec nous à la caisse du supermarché. Elles sont 3 dans chaque salle de classe.
En tribune, Judith Godrèche, en larmes, tandis qu'au pupitre, l'insoumise Clémentine Autain dénonce.
Quand Emmanuel Macron nous dit que Gérard Depardieu est victime d'une chasse à l'homme, l'acteur sera jugé en juin pour agression sexuelle. Ou quand le président de la République remet la Légion d'honneur à Thierry Ardisson, au moment même où des extraits d'une interview ignoble de Christine Angot, la qualifiant de pute et son éditeur de proxénète. Quand est-ce, mes chers collègues, quand est-ce que tout cela s'arrête?
Pour Annie Genevard, députée LR, c'est l'occasion de dénoncer, selon elle, les dérives des 68 arts.
On ne les condamnait pas, parce que la morale et la vertu, vous savez, c'était affaire de bourgeois, et l'heure était à la subversion des valeurs. Mesurons les stigmates laissés par ces décennies de déviance libertaire qui, pour la plupart, seront tus à jamais.
Benoît Jacquot, Jacques Doyon, Gérard Depardieu, tous auront l'obligation, s'ils sont convoqués, de venir témoigner devant cette commission d'enquête qui va durer 6 mois.
Elle commencera ses travaux fin mai et son champ s'étend du cinéma à la mode, en passant par l'audiovisuel et le théâtre. Trop peu de femmes font leur dépistage du cancer du sein, moins d'une sur deux, alors que c'est pourtant le cancer le plus fréquent chez les femmes. Une mammographie est proposée tous les 2 ans à celles qui ont entre 50 et 74 ans. Carla Bruni a-t-elle joué un rôle d'intermédiaire dans l'un des pans du dossier de soupçon de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007? L'épouse de l'ancien président a été entendue aujourd'hui par l'Office central de lutte contre la corruption sur un moment particulier de l'affaire, la rétractation de Ziad Takieddine en 2020, jusque-là témoin à charge, Emmanuel Leclerc.
Et c'est une audition qui aura duré 3 heures malgré tout. Carla Bruni Sarkozy était entendue comme suspecte, elle est ressortie sans qu'il y ait la moindre décision du juge d'instruction à ce stade de l'enquête. On sait que l'épouse de l'ex-chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a effacé sur son smartphone l'intégralité de son fil de messages échangé avec son ami Mimi Marchand, soupçonné d'avoir joué un rôle central dans cette histoire rocambolesque. Message supprimé le jour même de la mise en examen de Mimi Marchand, surnommée la papesse des paparazzi. C'était le 5 juin 2021. Depuis, les enquêteurs de la police judiciaire cherchent à savoir s'il y a eu volonté manifeste de dissimulation de preuves de l'implication notamment de Nicolas Sarkozy. Justement, l'ancien président avait expliqué pour sa part que Mimi Marchand n'aurait contacté son épouse que pour obtenir plus rapidement un test PCR pour partir au Liban, et ce en pleine pandémie de Covid. L'avocat de Carla Bruni Sarkozy, dans un communiqué, déclare lui que sa cliente a pu apporter l'ensemble des éclairages et explications utiles, sans plus de précision.
Emmanuel Leclerc, 10 jours après le classement sans suite des plaintes le visant pour sa chronique de novembre dernier sur Benjamin Netanyahou, Guillaume Meurice est convoqué par la direction de Radio France dans les prochains jours pour un entretien préalable à une éventuelle sanction. Suspendu d'ici là, il ne pourra pas participer à la prochaine émission de dimanche. La procédure fait suite à l'émission de dimanche dernier où Guillaume Meurice est revenu sur l'abandon des poursuites en refaisant sa blague polémique.
L'ARCOM a tranché, le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne doit compter pour la campagne des européennes.
Il doit être décompté comme du temps de parole pour son camp, car s'il n'y avait pas de soutien explicite à la candidate de la majorité, Valérie Ayer, l'ARCOM juge qu'il y avait un lien direct avec l'élection. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Un discours de
1h48,
c'est ce que réclamait l'opposition, mais ça va compliquer la campagne.
Oui, pour les concurrents de la liste macroniste, évidemment c'est une petite victoire. La tête de liste LFI Manon Aubry, le patron DLR Éric Ciotti et celui du PS Olivier Faure avaient saisi l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Mais vous l'avez dit, pour le camp présidentiel, c'est plus embêtant. 1h48 donc de temps d'antenne en moins, par exemple sur BFM ou sur LCI, qui avait passé le discours en intégralité. Surtout que les conseillers de l'Élysée, comme les membres de l'équipe Renaissance, se montraient confiant, la semaine dernière, il n'avait pas vu le coup venir. C'est un événement institutionnel, le discours d'un chef d'État qui donne sa vision de l'Europe. Rien à voir avec la campagne. Mauvais calcul donc, même si un proche d'Emmanuel Macron ce soir tente de relativiser, le temps de parole, c'est votre problème, celui des médias, plus que le nôtre. Éternel débat, en fait, sur l'implication du président dans les batailles électorales, et ce n'est pas fini. Manon Aubry demande que les frais d'organisation du discours de la Sorbonne soient désormais décomptés des comptes de campagne officiels de la liste macroniste.
Et je rappelle qu'il y a un débat ce soir entre Valérie Ayer, candidate de la majorité, et Jordan Bardella pour le Rassemblement National sur BFM. C'est aussi en pleine campagne que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue au Liban aujourd'hui pour annoncer une aide d'1 milliard d'euros au pays, un soutien financier censé servir aussi à la lutte contre l'immigration clandestine. Les chancelleries occidentales qui se disent profondément préoccupées par l'avancée de la loi sur l'influence étrangère en Géorgie, calquée sur une loi russe, pour étouffer toute contestation. Des milliers de personnes ont encore manifesté devant le Parlement hier. La présidente du pays, opposée au gouvernement en place, était ce midi l'invitée de France Inter. Salomé Zourachbichvili se dit aux côtés des manifestants jusqu'au bout, car pour elle, c'est l'avenir européen du pays qui est en jeu.
Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'avenir européen de la Géorgie, et c'est plus que l'avenir européen, c'est donc son indépendance. Le tête-à-tête avec la Russie, ça veut dire la perte de l'indépendance, la perte de l'autonomie. Donc c'est pour ça que 80% de la population soutient l'avenir européen, l'intégration européenne depuis des décennies. C'est pour ça que tout le monde sort dans la rue, et en particulier la jeunesse géorgienne dans sa totalité. Et il n'y a pas de contre-manifestants. Il y a eu une contre-manifestation organisée à la Poutine, c'est-à-dire où on fait venir avec des autocars tous ceux qui travaillent dans le service public et qui savent que s'ils n'obtempèrent pas, ils vont perdre leur poste. Tous les autres jours, c'est la population qui, de son plein gré, sort et manifeste en disant non à la Russie.
Salomé Zourabichvili avec Jérôme Cadès, midi sur France Inter, et en France, diplomate de longues années avant de devenir la présidente de son pays. L'ONU demande ce soir le retrait du projet de loi sur l'influence étrangère. Et alors que la France se prépare à recevoir le président chinois Xi Jinping pour une visite d'État de 4 jours, l'émission de France 2, envoyée spéciale, dévoile ce soir encore un peu plus les dessous de ces bureaux chinois, commissariats clandestins, implantés dans plusieurs pays, dont la France. Alexandra Hakoun nous en donne un aperçu.
C'est une histoire incroyable qui débute au nord de Paris, à Aubervilliers, où les autorités chinoises ont convoqué un dissident, Ling Ruoshan, un restaurant où le jeune homme de 26 ans espère récupérer le passeport qu'on lui a confisqué.
Ils m'ont dit que je devais coopérer avec l'ambassade, qu'ils avaient des contacts partout en France, qu'ils me retrouveraient quoi qu'il arrive.
Mais très vite, c'est à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle qu'on se retrouve, où des représentants des autorités chinoises vont tenter sans succès de forcer Ling à monter dans un avion direction Canton. Élise Lucet.
Ce qui est frappant dans notre reportage, c'est quand même la présence à Roissy d'un membre de l'ambassade de Chine en France qui assiste à cette scène et qui manifestement est tout à fait au courant de ce qui se passe.
C'est surtout la preuve en image d'une réalité bien connue des services de renseignement, l'implantation partout dans le monde de commissariats chinois clandestins qui agissent en toute impunité, des révélations que les autorités françaises n'ont pas souhaité commenter face caméra.
Ces autorités nous ont remerciés en nous disant on ne savait pas que ça existait encore parce qu'en 2022, ils ont clairement demandé aux autorités chinoises de fermer ces stations de police chinoises en France. Deuxième chose, on fait un plateau avec l'un des journalistes responsables de ce reportage derrière, et il nous dit clairement que globalement, la France répond toujours de manière très timorée par rapport à la Chine.
De quoi rendre l'ensemble encore plus glaçant.
Alexandra Hakoun, et si la figure du président Xi Jinping vous intéresse, je vous conseille de vous brancher sur le tout dernier podcast de Radio France réalisé par Dominique André, Xi Jinping, le prince rouge. Le foot en deux infos ce soir, Lucas Hernandez ne jouera pas l'Euro de football avec la France. Le défenseur du PSG s'est blessé hier en Ligue des Champions face à Dortmund, rupture des ligaments croisés. Et puis l'Olympique de Marseille n'est qu'à 2 matchs d'une finale européenne. L'OM reçoit l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa, 21h ce soir au stade Vélodrome. C'est peut-être le groupe anglais le plus subversif d'Angleterre devant les Libertines. Fat Wet Family est de retour avec un nouvel album et il va sans nul doute faire l'événement. Mathieu Culeron.
Après 10 ans de carrière et 4 albums à son actif, le groupe Fat White Family aura réussi à s'imposer en se renouvelant perpétuellement dans une improvisation totale. C'est le cas de ce nouveau disque, Lias est le chanteur leader du groupe.
Je ne sais même pas où on en est en tant que groupe ou même qui fait encore partie du groupe. Ce disque a été une succession de conflits internes, de complots et on a transformé tout ça en un programme esthétique. Cet album est un chef-d'œuvre d'imprévu.
Aux poésies récitées avec passion succèdent les chansons fantasmées, mais aussi des expériences réelles, comme dans ce titre, John Lennon.
Cette chanson parle de ma rencontre avec Yoko Ono quand je traînais avec son fils Sean. Tu n'envisages pas vraiment que ce genre de légendes sont des vraies personnes, c'est plus comme un personnage de la Bible. Mais là, j'avais devant moi cette femme qui me parlait de son mari disparu. Comment ne pas écrire une chanson sur cette expérience ?
Forgiveness is Yours pourrait être l'album ultime de Fat White Family, les funambules du rock et l'esprit punk qui retombent toujours sur leurs pattes avec une nouvelle fois un disque étonnant, intelligent et totalement inclassable. I couldn't stop you from believing a dream.
Fat White Family qui sera en concert, notez-le, à La Cigale à Paris le 27 mai prochain.
Eh bien c'est noté, merci beaucoup Hélène Fili. Dans un instant on parle d'espace, on parle du New Space, même le nouvel espace. À quoi ça sert? Pour conquérir quoi? Avec quel argent? Pour comprendre et pour apprendre quoi? Ce sera avec nos invités et avec Sophie Bécherel, un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Élodie Calac, un temps variable pour demain.
Oui, avec encore des pluies ce soir, mais qui se décalent vers l'est et le nord. Demain, il restera un petit peu de pluie le matin du Pas-de-Calais aux Ardennes, mais aussi du Jura jusqu'aux Alpes, avec de la neige vers 1600 mètres. Ailleurs, ce sera plus calme, nuages et éclaircies. Éclaircies très belles du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée, avec du vent jusqu'à 80 km à l'heure du côté de la Corse. Et il y aura déjà quelques averses le matin du sud de la Bretagne et de la Gironde vers la Touraine et le Limousin.
Et l'après-midi, plus d'averses.
Oui, elles se multiplieront en effet. Elles gagneront la Normandie, la région parisienne, le massif central. Elles pourront prendre un caractère orageux. Et puis un voile nuageux gagnera le sud de la Garonne en fin de journée, annonçant le retour de la pluie pour la nuit suivante. Les températures seront en baisse le matin, comprises entre 3 et 10 degrés. Et puis l'après-midi, début de hausse, avec 14 degrés à Clermont-Ferrand, 15 à Lille, Cabourg, Tours, Dijon, Limoges, 17 à Paris, Rennes, Strasbourg et Grenoble, 18 à Montauban, 19 à Montpellier et 20 degrés à Toulon.
Et merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.
Je vous donne rendez-vous chaque vendredi matin.
France Inter, 9h, Ali Badou.
15 minutes de plus, c'est un quart d'heure de pure matière grise avec des intellectuels, des chercheurs, des scientifiques. 15 minutes de plus pour vivre ensemble une expérience de pensée en direct. 15 minutes pour explorer des idées neuves, celles de notre époque.
15 minutes de plus.
C'est tous les vendredis sur Inter, juste après le journal de 9h.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Et il est 19h, presque 22.
France Inter. Fabienne Synthèse.
Je ne vous apprends rien, Kennedy avait inventé l'expression New Frontier, nouvelle frontière, quand les Américains n'avaient Dieu que pour l'espace. Voilà qu'aujourd'hui on parle de New Space, nouvel espace, comme une nouvelle conquête, peut-être aussi même et surtout d'ailleurs de nouveaux acteurs qui regardent tous vers la Lune, vers Mars en même temps et aussi même vers beaucoup d'autres choses. Terminer la prééminence des États dans la conquête spatiale, le New Space, c'est aussi celui d'une industrie spatiale, celui d'acteurs privés, de multiples start-up, de nouvelles ambitions, et on y viendra peut-être aussi de nouvelles règles. Levez les yeux, regardez déjà là, en ce moment même, au moment où on se parle. Ariane 6, qui s'est dévoilée en partie à Kourou la semaine dernière, doit faire son vol inaugural d'ici un mois et demi, peut-être même remettre l'Europe dans la course. Lundi, le 6 mai, si tout va bien, Starliner, je dis si tout va bien parce que ça fait longtemps que ça devrait être le cas, mais enfin, devrait faire son vol d'essai vers l'ISS estampillé Boeing. Demain, les Chinois doivent poser une sonde sur la face cachée de la Lune avant un alunissage, c'est ce qu'ils nous disent, pour 2030. On est vraiment nombreux là-haut, de plus en plus nombreux, le Japon, l'Inde, les Émirats, le public, le privé, Elon Musk, bien sûr, Jeff Bezos, Richard Branson, la Lune redevenue au centre du jeu, Mars toujours quelque part dans les têtes, l'espace a toujours bien sûr été un terrain de jeu géostratégique, est-il en train de l'être de plus en plus, avec de plus en plus d'acteurs? Ce New Space, est-ce qu'il veut dire nouvelle conquête? Et si oui, pourquoi faire? Pour aller où? Pour chercher quoi? Pour comprendre quoi? Comment le faire? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et donc la première question, elle nous vient de Patrick, je vais la prendre dans ma voix, et c'est ceci: en abandonnant sa coopération dans la station internationale, quelles sont les ambitions réelles de la Russie? Nous demande-t-il, a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? Et déjà, on a des invités qui se dénoncent les uns les autres et qui pointent le doigt pour savoir qui répondra à ces questions. Pour discuter ensemble autour de la table jusqu'à 20h, il y a Arnaud Saint-Martin, bonsoir.
Bonsoir, donc je suppose que c'est moi qui dois m'y coller, non?
Mais dans une seconde, quand j'aurai présenté tout le monde, du coup ça vous laisse le temps de réfléchir, vous allez voir. Merci. Vous êtes sociologue au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, vous êtes chercheur au CNRS, co-auteur avec Irénée Regnault de Une histoire de la conquête spatiale aux éditions La Fabrique en février, paru donc tout récemment en février 2024. Alban Guillaumard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez quand même à des questions. Vous êtes doctorant en droit spatial à l'université Paris 2, Panthéon Assas, vous êtes coordinateur du groupe de travail Objectif Lune à l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Et puis il y a aussi Sophie Bécherel, bien sûr. Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef de service sciences, santé, environnement à France Inter. Qu'est-ce qu'on dit, Arnaud Saint-Martin, de la Russie aujourd'hui? Est-ce que la géopolitique, la politique, et pour dire les choses en un mot, la guerre en Ukraine a tout remanié en quelque sorte, et fait notamment que la Russie a renoncé à l'espace?
Elle n'a pas du tout renoncé. Hein.
Au contraire.
C'est plus compliqué de mettre en œuvre un programme spatial ambitieux, financé, etc. Mais ils sont toujours présents, déjà à bord de l'ISS, hein, et puis aussi avec plein d'applications à la fois civiles, militaires, scientifiques, avec un lanceur qui est en cours de développement, qui va tester Angara. Donc il y a encore des ambitions. Après, la question, c'est dans quelle mesure ça peut s'articuler à des programmes internationaux dans les cadres qui étaient ceux qui prévalaient jusqu'alors. Là, ça me paraît beaucoup plus complexe. Et donc là, il y a une espèce de spéculation dans la scène internationale de la politique spatiale sur les éventuelles nouvelles collaborations que la Russie pourrait tisser avec la Chine et quelques autres acteurs. Là, c'est en cours de déploiement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'infrastructure est encore en orbite, notamment la station spatiale. Il faut quand même la rendre opérationnelle en permanence, la maintenir en orbite, ne serait-ce que ça. Et la Russie est toujours engagée dans le programme.
Est-ce que ça veut dire que les alliances qu'on voit dans l'espace, donc qui aide qui finance qui et comment, sont rigoureusement les mêmes que les alliances qu'on voit sur le plancher des vaches, si j'ose dire, sur Terre? Ou est-ce qu'il y a une espèce de chose un peu particulière de l'espace qui fait qu'on n'est pas aussi clair que dans les alliances terrestres, je vais le dire comme ça? Albin Guillaumard.
En réalité, il faut quand même observer que la coopération spatiale internationale, certes, est une caisse de résonance de la géopolitique terrestre. Les rapports États-Unis-Chine, les rapports entre l'Europe et la Russie, on l'a vu avec le départ des Soyouz de Guyane. Mais néanmoins, on remarque aussi que le spatial est parfois un terrain de contre-conflictualité.
Je me demandais si c'était un espace de trêve, en fait, au fond.
De trêve, j'irais pas jusque-là, mais en tout cas, un endroit où certains acteurs qui, nécessairement, parfois, ne s'entendent pas sur Terre, trouvent des occasions de coopérer. C'est le cas avec l'ISS. Arnaud l'expliquait à l'instant sur la nécessité d'une coopération russo-américaine de toute façon pour y envoyer des astronautes et pour maintenir la station. Mais on le voit aussi, ne serait-ce que donc avec la mission que vous mentionniez en introduction, Chang'e 3 qui partira demain, avec une coopération Chine et ESA-CNES. Donc on voit bien que les coopérations en matière spatiale parfois arrivent à tisser de nouveaux ponts.
Et je me demandais justement si, je disais en introduction, c'est presque une tarte à la crème, mais on le sait que c'est bien la guerre froide entre la Russie et les États-Unis qui a fait aussi faire des pas à la conquête spatiale finalement. Est-ce qu'on serait allé sur la Lune s'il y avait eu cette guerre froide? Rien n'est moins sûr. Et je me demandais si on était en train de retrouver exactement la même chose aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, en fait. Est-ce que le New Space, c'est la New Cold War entre la Chine et les États-Unis?
Alors, ça fait partie des récits qui ont cours et qui contribue à maintenir une forme d'émulation, y compris dans le champ de l'astronautique, était un peu dévasté. Hein, il y a pas si longtemps, les budgets avaient tendance à décroître depuis la fin depuis la dislocation de l'URSS. Donc il y a eu un moment où il fallait relancer la conquête et clairement le moment un peu étrange d'ailleurs quand on regarde dans les années 90 où la Russie et les États-Unis coopèrent dans l'espace alors que quelques années juste avant c'était la guerre des étoiles, etc. Donc il y a eu ce moment de flottement et il a fallu relancer et il y a un moment où s'affirme la Chine au début des années 2000 notamment dans le secteur du vol habité, et c'est le moment où aussi commence à prendre la construction de l'adversaire, notamment aux États-Unis, pour justifier aussi des budgets, puisque la NASA était en crise, etc. Et à un moment donné, il y a toute une rhétorique qui va commencer à fleurir à Washington et pas seulement, et puis dans les cercles, dans les arènes de la politique spatiale, sur une nouvelle course à l'espace. Mais je pense qu'il faut le déconstruire largement, des deux côtés d'ailleurs. Il n'est pas sûr que les Chinois soient véritablement dans une espèce de course vis-à-vis d'un adversaire qui serait les États-Unis. De même que du côté des États-Unis, quand on regarde de près, il y a plein de gens pour qui, en fait, il faudrait devrait plutôt coopérer. Hein.
Mais est-ce que ça change la teneur des missions, en fait ? Quand on est à couteau tiré, encore une fois, je fais la comparaison, on était à couteau tiré dans les années 60, donc il faut aller sur la Lune parce que c'est la conquête prestige. Est-ce que, là aussi, dans cette guerre qu'ils sont en train de se livrer là, dans cette nouvelle guerre froide, ou je ne sais pas si on l'appelle comme ça, on va justement dans l'espace aller vers la conquête prestige ? Et si je vous pose la question, c'est que, donc ça veut dire remarcher sur la Lune, ça veut dire aller sur Mars, etc. Et donc, choisir des programmes qui ne sont pas forcément les plus utiles scientifiquement, mais qui sont les plus utiles en termes de prestige.
Ah oui, alors l'un ou l'autre. On pourrait l'interroger, ce prestige, ne serait-ce que son coût, et dans quelle mesure il est réalisable techniquement. Parce que le schéma qui est promu, notamment par la NASA, dans le cadre du programme Artemis, c'est d'occuper durablement la Lune. C'est pas simplement planter un drapeau une nouvelle fois. Ça aurait pu être une répétition, et montrer qu'il y a une maîtrise technique, etc. Là, l'enjeu, c'est d'occuper durablement, avec tout un concert de nations qu'on va emporter, et, dont la France, d'ailleurs, et pour entraîner, en effet, éventuellement un nouveau pas vers Mars. Ça fait partie de la rhétorique. On construit, d'ailleurs, une espèce d'inéluctabilité. Hein. C'est Mars, c'est Moon to Mars. Hein. Mais du point de vue de la continuité de paiement, de l'effort organisationnel, politique, etc., pour emporter l'adhésion, je pense que ça va être beaucoup plus difficile que dans les années 60. On avait une décision, en effet, qui l'a emporté. Et c'est pas sûr qu'on arrive jusqu'au bout de ce programme.
Allez-y, Alban Guyomar.
Oui, qui est une émulation, voire une stimulation des réciproques des programmes lunaires américains et chinois, c'est un fait. Enfin, il faut aussi constater que la Lune n'est pas que dans les ambitions chinoises et américaines. On a également des ambitions lunaires du côté de l'Inde, du côté du Japon, du côté du Luxembourg.
Tout le monde veut y retourner,
aussi.
Visiblement.
Ouais. Donc, ne faisons pas non plus un focus un peu trop grand sur cette opposition russo-chinoise. Américano-chinoise. D'autant plus que, comme l'a dit Arnaud, en effet, il faut aussi la déconstruire en grande part, puisque c'est essentiellement les États-Unis qui se sont lancés dans une course vers la Lune avec la Chine. Je pense que le programme chinois, et il faut aussi le préciser aux auditeurs, les programmes spatiaux chinois reposent sur un principe de programmation quinquennale. Donc tous les 5 ans, on revoit en partie la stratégie spatiale. Donc en réalité, les Américains se sont placés en opposition sur le programme Artemis aussi, par rapport au programme spatial lunaire chinois, mais c'est pas certain que la Chine en face se soit placée en opposition au programme lunaire américain.
Sophie Mécherel.
Et puis la Chine, elle est obligée de faire cavalier seule hein, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, elle mène son train de sénateur. En même temps, elle rattrape son retard et elle a à cœur de faire des missions que d'autres n'ont pas faites. Là, la mission qui part demain, quand même, aller sur la face cachée de la Lune pour rapporter des échantillons, si elle y parvient, elle sera quand même la première nation à l'avoir réussi. Et par ailleurs, dans cette opposition Amérique-Chine, notons que les Américains n'ont pas hésité récemment à couper dans le budget du retour d'échantillons martiens. Ils disent que ça, bon, bah, peut-être qu'on ne va pas y arriver, on va mettre tout l'argent là-dedans. Donc vous voyez, il y a quand même des choix qui sont faits par chaque nation.
On va retourner au standard, bien sûr, mais pour éclairer ce que vous venez de dire, Sophie Bécherel aura rappelé à nos auditeurs qu'effectivement, la Chine, vous dites, elle est obligée de tout faire toute seule, mais elle se débrouille plutôt très bien en faisant tout toute seule, en fait, la station, la fusée...
C'est l'avantage des programmes quinquennaux, c'est-à-dire voilà, que vous savez de l'argent, et puis on ne rogne pas sur les budgets, et par ailleurs, la Chine, elle a de l'argent, et elle en met beaucoup dans les programmes scientifiques, notamment, donc le spatial en fait partie, oui.
Alors, on va rester plus ou moins dans le même thème et dans le même pays, surtout. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir à tous et merci de prendre la question. Justement, donc on sait que la face cachée de la Lune, on la voit jamais, et la Chine veut aller là-bas. Selon vous, mesdames, messieurs les spécialistes, est-ce qu'ils y vont parce que on connaît pas et on va pouvoir partager la connaissance scientifique? Ou est-ce qu'aussi, et pour être les premiers, parce que ça n'a pas été fait, mais est-ce qu'aussi parce qu'on va pas voir ce qu'ils y font là-bas?
Ah, parce que c'est caché. Merci Olivier pour votre question. Il y a beaucoup de questions dans la question. D'abord, la première chose, il y a le mot partager qu'a prononcé notre auditeur Olivier. Est-ce qu'ils partagent, une fois qu'ils auront prélevé, compris, vu des choses sur la face cassée de la Lune, on partage ?
Alors, dans une optique d'exploration scientifique, c'est requis, évidemment. Mmh. Il y aura un moment où il y aura du partage, sous la forme de données, notamment. Et c'est l'essentiel de la rationalité, à un moment donné, de ce type de programme. C'était d'ailleurs une des des raisons pour lesquelles, à un moment donné, Apollo, les missions Apollo ont aussi gratté dans le régolithe. Hein. Il y a pas mal de roches qui ont été rapatriées, partagées après coup, hein, y compris avec les Soviétiques, hein, et qui eux aussi ont partagé.
Au fond, cette fameuse trêve ou pas dont on parlait, c'est aussi
donc,
ça.
Donc à un moment donné, on a de la science. Ouais, tout à fait. Il y a de la science, il y a du partage. Après, on verra dans quelles conditions. Enfin, j'en sais rien. Mais on verra aussi ce que ça produit en termes de science, de publication. Et là, c'est une autre affaire.
Il y a, dans la fin de la question d'Olivier, on l'a tous compris, il y a qu'est-ce qu'ils vont faire là derrière? Est-ce qu'ils vont pas aller chercher des ressources? Et on le verra pas, il y a cette espèce de fantasme autour de l'idée d'aller chercher des ressources sur la Lune. Est-ce qu'on est dans le pur fantasme, l'un ou l'autre, Alban Guillaumard?
Sur la mission de Chang'e 6, quand même, commençons par rappeler, pour répondre à Olivier, que les Chinois, ils vont en coopération. Donc, s'ils y font quelque chose de caché, en tout cas, ils le feront à plusieurs. Mais après, sur cet aspect de coopération, moi, cette mission, je trouve qu'elle démontre aussi que sur la Lune, il y a quand même une très large part de science nouvelle dans ces nouvelles ambitions lunaires, et aussi donc la recherche d'expérimentation qu'on n'a jamais faite par le passé, et aussi une connaissance géologique de notre satellite naturel qui est finalement très réduite, et que l'ensemble de ces missions, que ce soit Chandrayaan 3 cet été, enfin l'été 2023, Lune à 25 aussi, la mission russe, à chaque fois, les ressources étaient en ligne de mire, les ressources, mais plus avant, enfin plus que leur exploitation, en tout cas la connaissance géologique de la Lune. Donc on voit bien qu'on a des ambitions centrées sur le sol lunaire et sa composition.
Et du coup, pour faire suite à la question d'Olivier, il y a ce mot que vous avez prononcé tout à l'heure, Arnaud Saint-Martin, vous avez parlé d'occuper durablement la Lune. On a cette question de Florent aussi, dans la même lignée, qui arrive par mail et qui dit « Le droit international dit que l'espace n'appartient à personne et à aucun État, pardonnez-moi, tout en étant accessible à tous, mais l'accès par des sociétés va en privatiser l'accès, le polluer, etc. Donc il faut tout de suite interdire l'accès à un espace privatif commercial. Imaginez une régulation internationale intelligente. Il y a beaucoup de questions autour de ça qui semblent dire désormais ça va ressembler à ce à quoi peut ressembler au Far West. C'est exactement ça.
Le simple fait de le dire comme ça, c'est vrai que ça laisse à penser que ça va le devenir. En effet, ce Far West, et il y a toute une espèce de débat, il y a beaucoup de spéculations, alors chez les juristes notamment, mais pas seulement, y compris chez les sociologue dont je suis, hein, sur qu'est-ce que va devenir en effet la surface lunaire quand elle sera occupée, éventuellement, et on verra, hein, si éventuellement techniquement c'est possible d'exploiter des ressources. Mais aujourd'hui, oui, il y a une espèce d'inclination qui est légitimée par les accords Artemis, notamment poussés par les États-Unis, visant à faire miroiter l'idée d'appropriation privée par des citoyens américains. Ouais. Au départ, Space Act, etc., sous Obama en 2015, il y avait cette idée d'appropriation par des privés, par des citoyens américains, en vue de faire du business, qui est une vieille lune, si je puis dire, du jeu de mots, il fallait que j'en fasse au moins un, du spatial états-unien. C'est depuis les années 70, même peut-être avant, Alban pourra confirmer, il y a cette idée qu'on n'y va pas seulement pour l'exploration scientifique, poser des rovers, etc., juste pour la connaissance. C'est qu'à terme, on pourrait exploiter pour y construire des bases, voire une industrie lunaire. Et là, ce serait les missions de prospection avant ce scénario que vous pointez.
Mais ça, c'est vraiment les films de science-fiction. Est-ce que vraiment ça a du sens de l'imaginer, même dans un avenir extrêmement lointain, Alban Guillaumard, ou pas?
Si on peut quand même s'arrêter sur la situation juridique, parce que c'est quand même la question qui est posée par l'auditeur. Ouais. En réalité, on a bien une pratique du droit international qui est riche de plusieurs décennies de réflexion.
Il y a un traité de l'espace.
Il y en a plus, il y en a cinq. Même.
Ah bah voilà.
Il y en a cinq, et deux nous intéressent en particulier, le traité de l'espace, sur lequel je reviens dans un instant, et l'accord de 79 sur la Lune, accord qui n'a jamais en réalité été signé par des puissances spatiales, et on le met de côté dans le débat un instant, parce que ce qui nous intéresse ici, la question de notre auditeur, en fin de compte, c'est l'article 2 du traité de l'espace qui nous dit que l'espace n'est pas susceptible d'appropriation nationale par tout moyen, y compris par voie d'occupation. Qu'est-ce que ça signifie très clairement? C'est que le fait de planter un drapeau sur la Lune ne crée pas en soi de titre de propriété sur la zone autour du drapeau. Et l'espace est un espace non appropriable, c'est un espace international, on peut y naviguer, on peut l'utiliser, mais on ne peut pas se l'approprier.
Comme l'Antarctique.
Et comme la haute mer que l'Antarctique en réalité. D'accord. Et pour le faire extrêmement simple,
en même temps, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est un bon exemple, la comparaison avec la haute mer, parce que la question se pose de plus en plus aujourd'hui de la remise en cause de ces traités-là.
À ceci près que les ressources des fonds marins sont des patrimoines communs de l'humanité, ce que ne sont pas les ressources spatiales, puisque, comme je l'ai dit, l'accord de 79 en fait a été mis de côté. Et ce qui est intéressant, c'est de constater, et Arnaud le mentionnait, qu'au tournant des années 2010 arrive parmi les juristes ce débat de la propriété des ressources spatiales, qui est ensuite consacré par des lois spatiales nationales. Et que disent ces interprétations du droit international? Pour le faire extrêmement simple, on dissocie la surface, de la Lune, qui est non appropriable, de son contenu, à savoir la ressource, qui elle est appropriable. Autrement dit, quand je pose une base lunaire quelque part sur la Lune, et que je récupère de la ressource, je ne possède pas la zone, mais je peux m'approprier la ressource que j'ai récupérée et ramener.
Très américain d'être propriétaire de son sol, en fait. C'est exactement comme ça que fonctionne le droit américain, y compris sur le pétrole, en fait.
Ce qui mène à la question, je crois, qui est de déplacer le débat, non pas sur la propriété, mais sur l'occupation. Et là, on voit bien que c'est un enjeu, parce que la plupart des puissances spatiales à l'heure actuelle visent un retour vers le pôle sud de la Lune, qui est une zone extrêmement petite, il faut quand même bien l'imaginer, et qui contient quelques ressources en eau. Et si on est encore plus précis, au sein de ce pôle sud, toutes les positions ne se valent pas, parce que certaines sont mieux ensoleillées que d'autres. Et donc, on arrive à la question de comment est-ce qu'on fait cohabiter sur le pôle sud de la Lune différentes puissances spatiales qui, par ailleurs, ne s'entendent pas, et vous l'aviez mentionné plus tôt, sur Terre. Et là où c'est intéressant, c'est que le droit de l'espace, si on le mobilise correctement, si on lit correctement, l'article 2 du traité de 67 est très clair. L'occupation, l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, se fait pour des ambitions pacifiques et scientifiques, au nom de l'humanité, au sein d'un espace international non appropriable. En fait, finalement, je pense que l'enjeu pour les législateurs spatiaux du XXIe siècle, et aussi pour les citoyens qui désirent comprendre le droit de l'espace, c'est d'en revenir au traité.
Néanmoins, il y a des micro-coups de canif, y compris dans les accords Artemis, par le biais, par exemple, de la notion de safety zones, de zones de sécurisation, de ces points de fixation de l'activité. On va mettre des bases, et de fait, il faut la protéger, la sécuriser des interférences extérieures. Donc, c'est pas complètement... Évidemment, c'est pas de l'appropriation souveraine, territoriale, etc., à l'ancienne, mais n'empêche qu'on délimite à minima une zone.
De non-interférence.
De non-interférence, mais n'empêche que c'est peut-être le début de quelque chose. Et là, c'est ce genre de véhicule normatif qui pourrait changer les choses. En tout cas, je pense que c'est un peu vécu comme ça aux États-Unis. Ça peut être le cheval de Troie de l'appropriation souveraine.
C'est Talleyrand, là, où il y a un traité, il y a un canif.
Au nom de l'humanité, j'ai entendu. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant dans la formulation. Au nom de l'humanité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, que la finalité serve à chacun et tout le monde. C'est ça que ça veut dire, ou c'est moi qui...
En tout cas, c'est l'esprit du traité de l'espace, ouais. Et c'est l'esprit des rédacteurs du traité de l'espace. Maintenant, il est vrai que au tournant des années 2010 arrive ce phénomène du renouvellement de l'économie spatiale et du New Space, et que, comme l'a très bien dit Arnaud à l'instant, il est vrai que quand on vise les ressources spatiales au XXIe siècle, il y a certes la science, mais il y a aussi derrière des motivations économiques. Maintenant, l'enjeu, justement, sera de réussir à trouver une géopolitique spatiale et une économie spatiale qui arrive à concilier science et nouvelle rentabilité des activités spatiales.
On est dans l'espace, dans le téléphone sonne ce soir avec Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, avec Alban Guillaumard, qui est doctorant en droit spatial à l'Université Paris 2, avec Sophie Bécherel, chef du service Sciences, Santé, Environnement à France Inter. Et avec vous, Lionel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Lionel.
Ben, merci pour ma question déjà. Moi, j'avais une réflexion peut-être un peu bête, mais vu les enjeux climatiques sur notre planète, même si on est passionné, moi je trouve ça passionnant, toute cette immensité autour de nous, mais est-ce que c'est vraiment opportun, vu la situation, au nom de l'humanité, de mettre des milliards dans une conquête spatiale qui est peut-être un peu has-been, je sais pas. Je trouve ça, même si c'est passionnant, je trouve ça bizarre de mettre des milliards dans ces enjeux-là, alors qu'il y a tellement à faire sur notre bonne vieille planète bleue.
Merci beaucoup, Lionel. La question n'est pas idiote du tout, parce que surtout, c'est la question de tellement de gens que vous serez le porte-parole de tous ces gens. Et je vois que nos invités autour de la table font oui avec la tête. Bien sûr que c'est la question qui revient tout le temps, Arnaud Saint-Martin. Qu'est-ce qu'il faut répondre à Lionel? Est-ce qu'il faut le convaincre? Voilà à quoi ça sert, ces milliards-là. Peut-être que d'autres un peu moins, mais voilà à quoi ça sert, ces milliards-là.
Ça pose une question qui est importante et qui n'est pas suffisamment mise sur la table quand on parle des activités spatiales. C'est l'arbitrage, en fait, entre les moyens et les fins. Pourquoi on va dans l'espace? Et la réponse qui est souvent apportée, c'est celle de l'enchantement, éventuellement de la course, avec toute une dimension presque cocardière aussi. Hein. On va être les premiers, on va poser un drapeau, etc.
Et du coup, ça, ce sont les pires raisons, en fait.
Alors, vous l'avez deviné, peut-être. Ça fait partie des ressorts de justification habituels qui ont cours. Alors, moi, notamment aux États-Unis, moi je travaille sur le secteur spatial américain. Quand vous allez voir une audience au Congrès, bon, ils n'ont aucun scrupule à énoncer ce genre de principe sous les dehors de la nouvelle frontière, la mystique des pionniers, etc. Et ça vaut comme justification. Et monsieur disait très justement des milliards, mais en fait c'est beaucoup de milliards. Si on faisait le coût consolidé, moi je me suis amusé à le faire pour la station spatiale internationale en dollars constants 2024, moi je suis arrivé à 300 milliards en comptant les études amont, etc. Alors, c'est 300 milliards. milliard. Et ça compte pas les années à venir et la désorbitation qui va coûter 1,5 milliard. Hein. Mmh. Et on va voir littéralement la station flamber. C'est quand même quelque chose, enfin cramer. Donc évidemment que ça pose des questions parce que au même moment, parfois, il y a des missions scientifiques d'intérêt général s'agissant de l'observation spatiale de la Terre qui sont excessivement importantes. Oui. Je prends l'exemple par exemple du programme Copernicus européen sur lequel j'ai travaillé. J'ai fait la genèse dans plusieurs papiers de l'histoire de ce programme qui était dans les limbes quand j'ai commencé à l'étudier. Aujourd'hui, il est opérationnel. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir, y compris chez France Inter, etc., de voir par moment la référence au service Copernicus.
Rappelons que c'est un ensemble de satellites d'observation de la Terre qui permet de surveiller notre environnement,
tout à fait. Tous les paramètres du système Terre.
La hauteur du niveau des mers, et ainsi de suite.
Donc là, on a quand même des satellites éminemment importants. Je pense qu'il faut les financer.
Et dont les données sont gratuites et partagées.
Exactement.
Par la
c'est un programme de l'Union européenne, etc. Alors j'aurais pu déployer, mais j'ai pas eu le temps. Et là, on voit que dans les arbitrages sur les moyens et les fins, s'agissant par exemple d'une cause qui est la protection de la planète, il y a un spatial éminemment important qu'il faut défendre.
C'est ça qui est utile.
Voilà. Utile.
C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Effectivement, s'il n'y avait pas de spatial, au moment où on se parle, vous l'avez évoqué à demi-mot, Sophie, mais on ne sait pas qu'il y a du réchauffement climatique, en fait, parce que, enfin, on ne le sait pas. On ne peut pas observer de haut ce qui se passe.
On ne sait pas que la glace des pôles fond, on ne sait pas que la mer monte, on ne sait pas que telle zone du monde connaît une sécheresse inégalée. On ne communique pas, les avions ne décollent pas à l'heure. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire sans les satellites.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut décorréler, Albin Guillaumard, ce qui est follement utile, de ce qui n'est que prestige, ce qui ne sert que au blason des pays que nous sommes.
Non, je pense qu'il faut encourager le questionnement sur les usages en matière spatiale. C'est un thème qui est assez émergent, je crois, dans le débat spatial français, qu'on voit de plus en plus. Et à ce titre, il faut quand même souligner le rapport de l'association Point Réveil écologique sur le secteur spatial, qui a quand même mené un questionnement par des étudiants en école d'ingénierie sur justement ce questionnement des usages et la façon dont les entreprises du secteur spatial s'engagent aujourd'hui dans de nouvelles activités. Après, il faut aussi être lucide sur un point. C'est vrai que, et je rejoins tout à fait notre auditeur, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la plupart des grands exploits spatiaux du 21e siècle se retrouvent en une des journaux à côté de catastrophes climatiques. Mmh. Il ne faut pas croire que les acteurs du spatial et les observateurs, dont nous sommes avec Arnaud et Sophie, sont insensibles à cette mise en balance. Mais c'est pour ça, et je rejoins tout à fait le débat, il faut aussi souligner notre dépendance aux activités spatiales. On en a besoin. Des satellites d'observation de la Terre, de météo, de connectivité. Et l'enjeu, justement, c'est peut-être de faire un effort de pédagogie sur l'explication du spatial, sur qu'est-ce qui est l'espace utile, celui du quotidien, et qu'est-ce qui est l'espace inutile. Et désolé de le dire, mais peut-être que le tourisme spatial ne fait pas partie des priorités.
Alors allez-y, Sophie, puis après on
pour autant, les astronautes fascinent. Donc, si on dit que le spatial habité est moins utile que l'autre spatial, c'est en contradiction avec ce que nous évoquent ces hommes et ces femmes qui partent dans l'espace, et peut-être à la place de qui on aimerait être.
Là, vous lancez, Sophie, une pierre massive dans le débat spatial, puisque le vol habité est un débat qui agite de plus en plus notre communauté.
Mais votre communauté, mais est-ce que les citoyens sont interrogés là-dessus ?
Mais justement, et je voudrais rajouter quelque chose à la question de Sophie, parce que je pense que ça rentre dans le débat. Est-ce que, malgré tout, c'est pas parce qu'on voit Thomas Pesquet qu'on admet qu'on va payer des milliards et des milliards pour lancer des satellites ? Sinon, ce serait beaucoup plus compliqué de le faire avaler, pour dire les choses.
Moins glamour.
Moins glamour.
Alors, ça fait partie des rôles, en fait, hein, que les astronautes doivent endosser, hein, ambassadeur du spatial. C'est la tête de gondole. Hein. Et faire l'article, inspirer. Donc il y a un rôle qui s'est codifié dans le temps, etc. Et qui a une histoire longue. Hein. Et mais la question, c'est est-ce qu'on peut pas le faire autrement ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'incarner avec des humains de ce type-là ? C'est intéressant de voir, il y a eu des études menées par la NASA sur l'émulation autour des missions robotiques, notamment Perseverance, qui en fait fascine aussi, tout autant. Oui. Alors, c'est beaucoup moins cher qu'une mission humaine vers Mars, et ça produit beaucoup de science. Et il y a des formes de projection tout à fait intéressantes vis-à-vis de la machine, qui devient de plus en plus intelligente. Il y a aussi, il y a eu un moment Rosetta, Philae, qui a été fascinant. C'est un moment extraordinaire.
Il y avait un compte Twitter, tout le monde le suivait, comme des fous.
Voilà, Twitter n'était pas inventé quand ça a été envoyé dans l'espace.
Mais au moment où il était, il y a eu
un travail de communication hyper habile pour rendre ce petit robot sympathique, vaguement anthropomorphisé, et ça produit quand même un certain enthousiasme.
Mais ce que ça veut dire, Albin Guillaumard, je sais que vous vouliez intervenir, mais mais je vais juste passer ma question à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que, imaginez qu'on ait la possibilité d'aller sur Mars aujourd'hui, et que ça coûte extrêmement cher d'y envoyer un homme, un peu moins d'y envoyer un robot, au fond, les deux ramèneraient, oui, non, beaucoup moins, les deux ramèneraient rigoureusement la même chose?
Ah non, pas du tout.
Est-ce que l'homme ramènerait quelque chose de plus?
Ramènerait quelque chose de différent, en tout cas, puisque pour Mars, je pense que pour l'instant, l'efficacité relative d'une mission robotique et d'une mission habitée sont incomparables. Rappelons quand même que Mars, c'est 6 mois de voyage et les conditions sur place ne feraient rêver aucun humain sur cette planète.
Certes.
Mais en fait, je pense que sur le vol habité est un débat vraiment qui structure le débat spatial contemporain, parce qu'il nous interroge en fait sur qu'est-ce que l'exploration spatiale dans un monde à plusieurs degrés de plus, qu'est-ce qu'un l'exploration spatiale du 21e siècle. Et je pense que le tourisme spatial a fait beaucoup de mal, et la communication autour du tourisme spatial a fait beaucoup de mal au débat, puisque les astronautes, rappelons-le, ne sont pas des touristes. Les astronautes sont engagés dans des programmes scientifiques, certes qui, et je vois Arnaud Hochet, mais certes qui ont l'arbitraire du choix programmatique. C'est l'arbitraire du choix programmatique d'envoyer des astronautes dans l'espace. Mais néanmoins, ils ont réussi à conduire des expérimentations scientifiques sur qu'est-ce qu'un humain dans l'espace, qu'est-ce qu'un équipage multiculturel en orbite. Et à ce titre, c'est assez intéressant.
Comment arriver à cohabiter dans un espace si petit?
C'est a priori. Mais en tout cas, aussi, ce qui est intéressant, c'est de revenir à... Et moi, je ne suis pas nécessairement opposé à la rhétorique de l'exploit en matière spatiale. Ouais. Évidemment qu'il y a une part de prestige national et scientifique dans le fait d'envoyer des astronautes. Mais à côté, il y a aussi une notion d'apprentissage de l'exploration spatiale par l'envoi de l'astronaute. Et revenir à cette notion d'exploit, revenir à ce sentiment de fierté de l'exploration spatiale, n'est pas inintéressant, même si je sais qu'Arnaud trouve cela trop cher.
C'est pas qu'une question de coût.
Je vous ai même vu tiquer quand il parlait des touristes de l'espace, Alban Guillaumard, comme si, dans votre tête, même Thomas Pesquet était au fond un touriste de l'espace.
Alors là, vous me coupez l'herbe sous le pied.
Ah, pardon.
J'allais presque le dire, en fait.
Bah, écoutez, redites-le.
Il y a une transformation aussi du métier d'astronaute. Alors là, ça va paraître hyper choquant de le dire comme ça, mais clairement, quand on regarde le fonctionnement de certaines agences, elles achètent leurs tickets à SpaceX, littéralement. Donc elles prennent un siège comme des touristes. Alors, certes, il y a un petit protocole expérimental, il y aura des expériences à réaliser, etc. Mais y compris les expériences, il faut regarder ce qu'ils font. En termes de science, de publication, etc., c'est quand même chiche. L'essentiel des expérimentations sur le corps humain a été plus ou moins mené depuis le temps qu'on envoie des humains dans l'espace. Donc là, on a une espèce de science tautologique qui produit sa propre justification dans l'étude d'un corps humain qui n'est pas du tout calibré pour ce milieu qui est radicalement hostile à l'humanité. Quelle est la pertinence, y compris dans les sciences médicales, de ces expériences? On peut poser la question. Et quand on regarde les retours scientifiques en termes de publication, c'est pas grand-chose. Et si on devait faire un coup article ventilé par les milliards engloutis par le vol habité, franchement, ça serait déprimant pour les gens qui le prônent.
Ce qui est troublant, en tout cas, depuis l'arrivée de SpaceX et de son véhicule Crew Dragon, là, qui amène les astronautes vers la station.
C'est celui d'Elon Musk.
Voilà, d'Elon Musk, c'est à quel point, effectivement, l'astronaute semble ne plus avoir rien à faire. Pour preuve, on a quand même mis 4 touristes dans une capsule, il n'y a que 4 places. Ils sont allés au-dessus de l'atmosphère terrestre, donc ils ont atteint l'espace et ils sont revenus. Et on se dit, ah bon, alors donc on a des astronautes qu'on entraîne de très longues heures, et puis finalement, 4 Pékin, pardonnez-moi l'expression, ils parviennent aussi. Oh, ça en met un coup quand même dans le métier d'astronaute, je trouve. En tout cas, c'est troublant.
Comme les premiers cosmonautes russes se plaignaient de n'avoir quasiment rien à faire une fois qu'ils étaient lancés. C'est pas nouveau.
Il n'y avait même pas de hublot au départ dans les capsules Gemini. Donc, mais ça, je pense que c'est un point important. Il y a une relativisation aujourd'hui, une banalisation du vol habité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était désiré au départ par les agences. La NASA, quand elle vend notamment la navette spatiale, elle vend un accès abordable, fiable, sûr, à l'espace, enfin l'orbite basse, parce qu'en fait, quand on parle de l'espace, en fait, on va pas très loin. Faut quand même
450
km. C'est Paris-Strasbourg. C'est quand même ça l'espace. Quand on dit occuper l'espace en orbite basse.
En même temps, comme vous le disiez là-haut, à 450 km, on n'est pas bien sans la station.
Oui, non. Oui, sans doute. Mais je pense que là, en tout cas, il y a une relativisation. Les agences ont voulu banaliser en rendant cette exploration ordinaire. C'est le cas aujourd'hui, et cet ordinaire est commercialisé sous la forme du tourisme spatial, avec quelques milliardaires qui peuvent se payer des tickets, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et il y a eu, quand on fait l'histoire du tourisme spatial comme promesse de marché du New Space, depuis les années 2000, on se voit qu'il y a quand même pas mal de compagnies qui se sont cassées la binette, dont certaines qui sont encore cotées en bourse, qui sont sous le dollar. Et je pense qu'il faut être aussi prudent dans la façon dont on chronique ces promesses qui sont vraiment exorbitantes et assez irrationnelles.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'effectivement, le privé est rentré dans le jeu, Elon Musk en particulier, et qu'à partir du moment où ils sont là, d'être complètement cynique, mais excusez-moi, mais c'est moi qui paye, donc j'en fais à peu près ce que je veux, en fait. Est-ce qu'on n'en est pas là, et est-ce que c'est pas là le risque ? En fait, dès lors, c'est ce qu'on disait en introduction, que les États n'ont plus toutes les prérogatives aujourd'hui. Ce qui intéresse Elon Musk, là, c'est... Alors, pour le coup, c'est l'exploit, c'est surtout l'exploit industriel, c'est le prestige qui va derrière. Et j'imagine que sa réponse, c'est « Attendez, moi, les millions, je les dépense, et vos astronautes, je les trimballe. » Donc, foutez-moi la paix, non ? Est-ce que c'est pas comme ça aussi, ce qui risque de se passer dans l'avenir ?
Alors, Elon Musk ne fait pas tout à fait ce qu'il veut. Il y a clairement des réglementations. Il y a, à un moment donné, un département d'État, il y a une NASA qui paye, qui surveille, et qui paye puissamment, quand même, SpaceX. Et à un moment donné, quand il y a des dysfonctionnements, et récemment, il y en a eu à Boca Chica, sur la base de Musk, le premier vol du Starship, ça s'est très mal passé. Il a été cloué au sol, quand même, pendant 6 mois, parce que, précisément, les basics d'un pas de tir n'étaient pas respectés. Il a soufflé littéralement son pas de tir. Et ça, du point de vue des conditions de sécurisation de son activité, c'était quand même très problématique. Et depuis, ils ont un peu serré les vis. Et on va voir comment ça continue. Mais il y a toute une fiction qui est par moment, paresseusement entretenu autour des privés qui font un peu ce qu'ils veulent dans l'espace, mais en fait, pas du tout. Et le jour où le département d'État, le Pentagone dira « c'est la fin de la récré », tu rentres dans le rang, je pense que ça, enfin, du côté de SpaceX, ça va se calmer davantage, quoi.
C'est vrai que c'est essentiel. En fait, l'État ne disparaît pas du paysage spatial avec la privatisation des activités. Déjà pour une raison juridique simple, c'est que l'État engage sa responsabilité internationale pour toutes les activités spatiales qu'il autorise. Et véritablement, il faut se poser la question de qu'est-ce que le New Space ? Et en fait, cette politique économique, qui n'est qu'une politique économique parmi d'autres possibles en matière spatiale, le New Space n'est pas la seule politique économique aujourd'hui appliquée, mais consiste à se dire que le privé, et c'est le choix américain, est peut-être plus efficace dans la réponse à certains besoins
exactement,
stratégiques.
Exactement. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire, on va faire de la politique fiction, que si demain Elon Musk ou un autre d'ailleurs avait les moyens d'aller sur la Lune et d'y poser un astronaute qui marcherait lui aussi, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas ?
En tout cas, il a besoin de l'autorisation américaine pour l'opération spatiale.
Bien sûr. Il faut immatriculer les véhicules, il faut les faire vérifier. Enfin, on n'envoie pas n'importe quoi, ni n'importe comment.
Il faut immatriculer le véhicule. J'ai l'impression qu'il a besoin de carte grise.
Non, il y a une immatriculation en matière spatiale.
Volant.
Oui. Mais absolument. Patrick
identifié.
Identifié. Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
En fait, la Lune, il y a 3 caractéristiques importantes. Il n'y a pas d'atmosphère, il y a une faible gravité, il y a une température très basse. Et en fait, ça permet de pouvoir faire des industries lourdes, polluantes, qu'on ne peut pas faire sur Terre à cause de la population. Ça permet de lancer des fusées pour moins cher pour aller explorer la ceinture d'astéroïdes, qui a des matériaux abondants et rares sur la planète Terre. Et ça permet aussi de faire de la recherche scientifique avec beaucoup d'énergie solaire, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, et des températures très basses. Donc en fait, c'est quand même une vraie opportunité économique d'aller sur la Lune, c'est pas que du politique, je pense.
Alors j'ai vu passer votre nom, Patrick, et je vous ai vu passer sur WhatsApp. Vous travaillez pour Ariane Group, on est d'accord.
Oui.
Non mais c'est pas grave. Vous avez totalement le droit également, mais c'est bien de savoir d'où parle chacun et c'est bien normal. Un mot, Arnaud Saint-Martin.
Alors là, je réponds aussi en tant que sociologue. Enfin, moi, je travaille sur la façon dont on construit les futurs de l'espace. Comment ça cadre, ça stimule à un moment donné des politiques spatiales, et ça aussi, ça justifie des budgets. Et en effet, là, ce que vous énoncez, monsieur, ça fait partie des répertoires ordinaires de justification du retour sur la Lune, qui est un retour du côté américain, mais pas du côté chinois, puisque ils n'ont pas encore planté le drapeau. Et moi, je pense qu'il faut les interroger en faisant de l'histoire, en déconstruisant les futurs passés non advenus. Et moi, j'ai beaucoup de rapports de la NASA, et pas seulement de la NASA, aussi côté soviétique, sur comment on allait poser à un moment donné une industrie sur la Lune, y compris industrialiser l'espace, alors les astéroïdes, etc. Bon, ça s'est toujours pas passé. Moi, enfin, je suis pas futurologue et encore moins astrologue, donc je prophétiserai pas, mais pour l'instant, moi, je reste dubitatif. Ce sont pour l'instant d'aimables vues de l'esprit qui, par moments, peuvent contraindre la décision, l'inspirer, mais ça reste à voir. Hein. Et il se pourrait que ça s'arrête. Parce qu'il n'y a plus de budget, parce qu'un président américain dit on arrête tout. La dernière fois, Trump a signé, franchement, une semaine après, il a quand même publicisé un tweet, à l'époque il était sur Twitter, il a dit, mais pourquoi on ne va pas sur Mars plutôt que sur la Lune ? Donc voilà, il y a des moments, il y a des contingences et des indéterminations dans la décision politique qui font que ça pourrait se disloquer.
Pardon, excusez-moi, je vous regardais de loin et je n'avais pas vu que vous vouliez la parole, Alban Guyomard.
Au cœur de tout ça, je pense, et c'est la dernière remarque de notre auditeur, c'est la science quand même. Il y a des ambitions scientifiques, il y a une part de science nouvelle dans cette ambition lunaire, il faut quand même le remettre au centre du village. Et c'est vrai qu'on a très peu parlé d'Europe spatiale ce soir, mais entre l'ambition lunaire et, chinoise et l'ambition lunaire américaine, je pense qu'il y a aussi une troisième voie pour un modèle européen d'exploration de la Lune qui serait fondée sur la coopération et aussi la recherche scientifique comme élément central. Bon, on voit bien que le paramètre vol habité fait débat, mais en tous les cas, s'engager sur des missions robotisées européennes de meilleure connaissance de la Lune, ce serait fabuleux. D'autant plus qu'on la connaît très mal. C'est paradoxal, elle est là tous les soirs et on la connaît finalement peu.
Et c'est vrai, vous avez raison de parler de l'Europe, puisque quand même, on a une excellence scientifique et technologique quand même en Europe qui n'est pas suffisamment connue, en fait. Hein. On est très très bon. D'ailleurs, le programme Artemis, sans l'Europe, ça ne marcherait pas.
Je voudrais une dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps. Enfin, il y a une double dernière question. En fait, il y en a au moins celle de Michael. Ah ben, c'est deux fois celle de Michael. Je travaille chez Thalès. Décidément, on n'a que des grands spécialistes aujourd'hui. Bonjour. Que dire des constellations, en particulier la constellation européenne, dite constellation Breton, du nom de Thierry Breton, qui tarde à être financée. C'est un enjeu de souveraineté évident, essentiel pour l'Europe et la France en particulier, qui possède l'industrie pour la mettre en œuvre et la mettre au point.
Justement, il faut replacer la question des constellations dans celle du questionnement des usages de manière plus globale en matière spatiale et vraiment mettre en miroir à la fois c'est quoi une constellation, il faut quand même l'expliquer, c'est plusieurs milliers de satellites coordonnés orbitant autour de la Terre avec ce que ça implique comme besoin de remplir l'orbite basse en orbite basse pour faire des communications et avec ce que ça implique comme taux de remplacement de ces satellites aussi, puisqu'il faut les remplacer quand même de façon régulière. La question qui se pose, c'est celle de la place en orbite pour un nombre important de constellations et la question est importante, on le voit de plus en plus avec celle des débris spatiaux. Et s'ancrer sur le questionnement des usages face à ces constellations, qu'est-ce que ça signifie ? C'est mettre en place des besoins réels davantage qu'un modèle économique sur ces constellations.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à tous les trois, merci vraiment très chaleureusement. Merci à tous pour vos appels. La question des petits bateaux ce soir, c'est celle d'Elia qui a 6 ans et demi.
Je voudrais savoir comment elle se fabrique la peau. Merci, au revoir.
Allez, la réponse dans 3 minutes.
France Inter, c'est aussi une chaîne YouTube.
Les recettes de François-Régis Gaudry